Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur le site internet www.rdwa.fr ou sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Jean-François Barbieri. Bonjour.
Bonjour.
Jean-François Barbieri, nous sommes déjà rencontrés par deux fois auparavant pour deux ouvrages que vous aviez rédigés. Et là, vous revenez avec Poulet Rôti, une nouvelle publication qui est au plus près de l'actualité, en quelque sorte, hein, entre ces mouvements, anarcho-gauchiste quelque part, ou déçu de la société. Et puis, il y a aussi la représentation du pouvoir avec le président, le gouvernement, et puis ces hauts fonctionnaires et ces fonctionnaires sur le terrain aussi. Et l'action se passe principalement à Gap. Et donc, on peut peut-être présenter rapidement la teneur de cet ouvrage. Quelle est l'intrigue ?
Alors, il s'agit d'un roman, donc une fiction qui se passe de nos jours à peu près, ou même peut-être même dans deux ans, où j'ai essayé d'imaginer ce qu'était la police et gendarmerie, ce que sont devenus les services de sécurité de nos jours par rapport à ce que j'ai connu moi dans le passé, vu que j'étais policier moi-même durant plus de 30 ans, toujours en investigation à Paris, Marseille et à l'étranger. Et comme j'ai constaté une évolution que je considère pas toujours positive de ces institutions, ben j'ai voulu le coucher sur le papier et j'ai choisi le thème du roman, la méthode du roman, pour le dire, parce que ça me donnait une assez grande liberté de parole, plutôt que faire un essai géopolitique. Je pense que des essais géopolitiques sur le sujet, il y en a pléthore. L'essai géopolitique demande beaucoup de travail. Alors c'est peut-être un peu par flemme, j'ai choisi le roman. Donc effectivement, l'intrigue se passe principalement à Gap et dans la région du Haut-Buëch, où je demeure depuis quelques années. Donc ça me permet de bien connaître les lieux que je décris. Et l'intrigue est pas le, je dirais, pas le plus important du livre. C'est plutôt le message que j'ai voulu faire passer à travers une enquête policière suite à un attentat criminel contre le commissariat de Gap. Un attentat malheureusement mortel. Et s'ensuit une enquête, bien sûr, de la sous-direction antiterroriste de Paris. Comme c'est le cas habituellement. Et comme tout ce qui est attentat, il y a toujours un relent politique quelque part. Donc le pouvoir politique se mêle énormément de l'enquête, ce qui se passe effectivement dans la réalité, parce que le pouvoir politique se sent visé dès qu'il y a un attentat, comme ça, que ça soit un attentat islamique, ou alors un attentat, là, on va dire, plutôt de la, on va dire, ce qu'on appellerait la gauche radicale. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit air sur l'intrigue de l'affaire de Tarnac. Mais bon, il y a une petite ressemblance, mais enfin, sans plus. Voilà.
Vous vous dites aussi nostalgique d'une police à papa. Qu'est-ce qu'on peut décrire sur ce terme, hein, de police à papa ?
Alors, je pense pas être nostalgique d'une police à papa. Je pense qu'on peut m'en faire le reproche, peut-être, en disant que je refuse la modernité, je refuse l'évolution qu'il y a eu au cours des 20-30 dernières années. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1981. La police, effectivement, a évolué, mais comme toute la société qui a évolué. Je vais pas dire que tout était mieux avant. Certaines choses se sont améliorées, que ce soit au niveau technique, au niveau parfois législatif. Mais globalement, il y a deux, trois choses qui me semblent assez négatives. Et je pense là bien parler au nom de mes collègues qui travaillent encore aujourd'hui et qui ont connu les dernières années, c'est notamment dans, en termes de ce qu'on appelle de rentabilité, la course aux chiffres, les statistiques. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier non plus, ça date pas, contrairement à ce qu'on croit, de Sarkozy, du président Sarkozy, ou quand il était ministre de l'Intérieur. Ça date même du début des années 90. Hein. Moi, je l'ai découvert à mon arrivée à Marseille, à la PJ Marseille, où les statistiques devenaient très importantes. Alors à l'époque, c'était des statistiques sur le nombre, nous en police judiciaire, sur le nombre d'arrestations, sur le nombre d'écrous, donc de personnes écrouées à suite des enquêtes. Ça a commencé à cette époque-là et ça n'a fait que s'amplifier sous les pouvoirs différents, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. Donc au début sous Mitterrand, ensuite sous Chirac et ensuite sous Sarkozy. Et ça a continué et ça continue encore aujourd'hui. Et je dirais même que ça s'est amplifié à tel point que non seulement on est jugé sur le nombre d'arrestations, mais même pour certains services qui traitent de la petite et moyenne délinquance, y compris de la délinquance, ce qu'on appelle la délinquance routière, c'est qu'il faut être rentable et mettre un nombre de PV, de timbres amende au maximum. Alors, je sais que les collègues d'aujourd'hui sont jugés là-dessus. Il faut d'abord qu'ils fassent leur quota, on va dire, c'est comme ça que ça se passe, leur quota de timbres amende, et après on pourra passer au reste. Et là, j'ai des témoignages de collègues bien plus jeunes que moi, qui, que ce soit en gendarmerie ou en police urbaine, le plus important, c'est les timbres amende. Donc ils sont poussés à ça parce qu'ils n'ont pas des primes en elle-même, même si à un moment Sarkozy a développé les primes au mérite. Mais en tout cas, pour l'avancement, pour la notation administrative, c'est très important. Et donc on demande à ces fonctionnaires d'aligner. Il y aura toujours une infraction à trouver sur un véhicule, sur un stationnement, sur n'importe quoi, pour faire voir, à la fois pour faire voir que la police travaille. Alors nous, en police judiciaire, on sait voir qu'on travaille par nombre d'arrestations. Ben pour le gardien de la paix, le gendarme de base, ben ça sera en termes de timbre amende qu'il va distribuer. Donc il y a une course à la rentabilité de la police, peut-être. Et j'irais même peut-être un peu plus loin, et ça, je m'en suis aperçu ces dernières années, avec les crises des 80 km/h en délinquance routière, et maintenant même peut-être avec les crises sanitaires. On verbalise, il faut que la police, il ne faut pas qu'elle rapporte de l'argent, en tout cas, qu'elle coûte de moins en moins cher. Et toutes les amendes que l'on met, ça va rapporter à l'État. Alors, je ne dis pas que la politique sécuritaire n'est basée que sur ça, mais c'est un élément qui n'existait pas avant, le fait de rapporter à l'État. Et je vais même plus loin, je fais le parallèle avec un fait tout à fait d'actualité, c'est-à-dire le système de santé français, les hôpitaux. Il faut que les hôpitaux rapportent. Nous sommes dans un système capitaliste à outrance, hein, ultra-libéral. Il faut que les hôpitaux rapportent, en tout cas, ne coûtent plus d'argent. Le fait de soigner, ça passe au second plan. Bien, pour la police, la sécurité, je pense que c'est devenu la même chose. Il faut que la police rapporte et ne coûte à minima. Alors, pourquoi, on va se demander pourquoi une telle dérive. Alors, à mon sens, plusieurs raisons. C'est que le pouvoir politique, ça l'embête pour des questions électorales, d'augmenter les impôts directs. Alors, on augmente les impôts indirects, alors les taxes. Et ça fait partie des taxes. C'est une des raisons, je pense. Et alors, cette notion de rentabilité, on peut s'en... J'ai deux exemples aussi que je peux citer dans l'évolution qu'il y a eu à la fois de la police et de la justice, même ces dernières années. C'est qu'on a créé quasiment des infractions qui rapportent à l'État. Je prendrai deux exemples. Tout d'abord, il y a quelques années, la ministre de la Justice, je crois que c'était elle, Valo Belkacem, sous le président Hollande, a voulu, pour des raisons officiellement de féminisme, de protection de la femme, criminaliser les clients des prostituées. Bon, l'idée comme ça peut paraître séduisante. Dans la réalité, comment ça se passe? Les services de police passent leur temps à courir après les clients et ne courent plus après les proxénètes. Et c'est beaucoup plus facile et ça rapporte de l'argent à l'État. Les prostituées, au final, elles ne sont pas mieux loties. Au contraire, elles sont obligées d'être encore plus dans la clandestinité. Alors ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, beaucoup plus récent, concerne la toxicomanie, problème que j'ai un peu connu, vu que j'ai travaillé à la brigade des stupéfiants à Marseille. Auparavant, la toxicomanie était traitée, notamment, j'ai un jeune qui se faisait prendre avec quelques barrettes de shit. Il n'était pas verbalisé, il se retrouvait en garde à vue dans nos locaux, et au final, il avait une injonction thérapeutique à suivre pour se faire soigner, alors qu'il acceptait, parce que sinon on le menaçait de prison. Donc il acceptait toujours. Donc les toxicos, ne sont, en tant que simples toxicomanes, ne sont jamais allés en prison. Ça, c'est une fausse idée qui est très répandue. N'allaient en prison que les toxicomanes quand ils étaient eux-mêmes revendeurs. Donc ils étaient en même temps trafiquants. Donc ils allaient en prison en tant que trafiquants. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est la date d'il y a quelques mois, je crois que c'est à peine un an, on a décidé de criminaliser le toxico, c'est-à-dire on ne va pas plus lui faire une mesure de garde à vue avec une injonction thérapeutique après, effectivement administrativement c'est lourd, mais on va lui filer directement une amende qu'il paiera s'il peut, et ben ça va rapporter l'argent à l'État et on va utiliser les services de police à récupérer cet argent-là. Et on arrive, alors à la fois ça va monopoliser des forces de police qui vont passer leur temps à faire des contrôles d'identité, effectivement, où, comme par hasard, la barrette de shit tombe de la poche du toxico, donc il aura une amende. Mais j'ai même vu ces derniers temps on pourrait pas appeler ça des rafles, mais des opérations de grande envergure. Alors ça s'est produit notamment, j'ai un exemple, à la gare SNCF de Montpellier, où la police, un grand renfort d'effectifs, a encerclé la gare et, à l'heure de grande affluence, a bloqué tout le monde pour passer au peigne fin tout le monde avec des chiens antidrogue qui étaient sur place. Et tous les gens qui étaient détenteurs d'une barrette ou de shit, eh ben, ils étaient alignés comme ça. Alors, en gros, on emmerde la population. Vous vous rendez compte, arrêter les gens de 3-4 trains ou TGV et les passer tous au peigne fin, les gens perdent une heure à se faire contrôler, tout ça pour arrêter 10 ou 15 jeunes avec des barrettes. Je trouve ça assez lamentable, mais ça rapporte de l'argent à l'État.
Ce livre, qu'est-ce qui vous a incité à l'écrire? Il y a eu une actualité qui vous a déclenché cette envie?
Plusieurs choses. Tout d'abord, bon, j'ai écrit deux précédents livres sur ma carrière. Le premier sur ma carrière de flic en PJ, Marseille, Paris-Marseille, puis l'Amérique du Sud. Le deuxième livre était sur ma carrière un peu en Amérique du Sud, où j'ai travaillé pendant 4 ans en ambassade à La Paz, en Bolivie. Mais là, j'ai décrit, sous forme d'un essai géopolitique, j'ai décrit la situation relativement à la cocaïne, la démocratie. Donc j'avais fait le tour pour décrire ce que j'avais vécu. Mais j'avais envie d'écrire quelque chose sur la façon dont je voyais l'évolution de la police. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, refaire un essai géopolitique, ça me paraissait très compliqué. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs, journalistes qui l'ont fait avant moi et qui le font certainement encore en ce moment. Donc j'ai voulu parler de la police d'aujourd'hui telle que je la voyais, mais sous une autre forme. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai préféré la forme du roman qui me laisse plus de liberté et où j'aborde donc à la fois les crises actuelles entre les événements les manifestations des Gilets jaunes avec les comportements de la police à ce moment-là qui est aux ordres du gouvernement qui même parfois faisait peut-être un peu de zèle. Et puis les histoires récentes, bien sûr, liées à la crise sanitaire, où ben, le gouvernement, à mon sens, fait tout et n'importe quoi, improvise énormément et utilise les services de sécurité, police, gendarmerie, pour imposer ses vues à une population qui, majoritairement, malheureusement, suit bonnettement comme des moutons. Voilà.
Dans ce livre, on voit le pouvoir réagir à cet attentat, et donc à essayer de trouver une communication à l'adresse de la population pour décrire un petit peu qui est l'instigateur de cet attentat. Il y a aussi, comment présenter ces terroristes. On peut penser à cette affaire de cet attentat contre le préfet Erignac, où le suspect avait été arrêté, je ne sais plus comment s'appelait-il.
Yvan Colonna,
quand il a été arrêté, tout de suite. On se rappelle de ce monsieur Sarkozy qui a dit « ça y est, on a arrêté le coupable avant même d'être jugé ». C'est un peu cet esprit-là que vous mettez en place, ou
pas
c'est encore plus subtil ?
Non, pas tout à fait. Disons que je ne ferai pas le rapprochement avec l'affaire Erignac, qui là était véritablement du terrorisme, bon, politique bien sûr, mais très organisé. Très organisé. Je ferai plutôt le pendant avec, comme je vous dis, l'affaire des jeunes de Tarnac. Il y a des différences. Bon, là, dans le livre, sans vous dévoiler ce qui s'y passe, ce sont des jeunes un peu paumés, leurs actes ont un peu dépassé leur volonté. Donc après, ils se trouvent embarqués dans une histoire qui les dépasse complètement. Mais ce que j'ai voulu surtout parler dans ce livre, ce dont j'ai voulu parler dans ce livre, ce n'est pas vraiment... l'évolution d'une jeunesse qui parfois est aux abois et parfois complètement déboussolée par ce qui se passe autour d'eux, entre les crises économiques, sanitaires et autres, mais plutôt la réaction, à la fois l'évolution des services de police et la réaction des politiques qui, eux, ne voient que leur intérêt propre. Le service de la population leur est pour la plupart, il y a des exceptions bien sûr, leur est pour la plupart devenu étranger. Une fois au pouvoir, ils ne pensent qu'à s'y maintenir. Je ne dirais pas qu'ils sont tous corrompus, tous pourris, mais malheureusement pas loin, parce que nous en avons des exemples tous les jours. Et pas seulement en Amérique du Sud ou en Afrique. J'ai vécu en Amérique du Sud, je peux en parler. Mais même chez nous, vous apercevez, que ce soit pour les affaires récentes, comme le comportement de M. Benalla et autres, je veux dire, ce sont des petits exemples qui montrent qu'il y a très peu de politiques qui échappent à la règle et qui échappent à la tentation, une fois au pouvoir, d'être corrompus. Alors, il est vrai que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ont moins l'occasion d'être corrompus. Mais c'est vrai que le pouvoir corrompt, malheureusement, et ça, c'est presque universel. Alors, heureusement, il y a quelques exceptions. Je pourrais presque les citer tellement il y en a peu, mais enfin, je ne vais pas faire... Je ne suis pas dans un rôle de juge ou de tribunal, ici.
Alors, vous parliez tout à l'heure du rôle de rentabilité qu'exercent les agents de police ou de gendarmerie en attribuant des procès-verbaux. Est-ce que, au fond d'eux-mêmes, c'était leur prédestination de rédiger ce type de document plutôt que d'être au service de la population au lieu d'être au service de la caisse
Vous savez, dans la police et la gendarmerie, il y a un peu de tout. À la fois, il y a des gens... des jeunes qui, lorsqu'ils s'engagent dans la police, certains ont un idéal. Ils veulent être au service de la population. Bon, je dirais que c'est un peu ce que j'avais moi aussi au départ lorsque je suis entré dans ce métier. J'ai réussi, par chance, à le garder un peu tout au long de ma carrière. Certains le perdent, malheureusement, parce que l'administration est très lourde et très imposante. D'autres rentrent dans ce métier parce qu'ils veulent manger, c'est tout. Ils ne veulent pas être au chômage. Alors, vous savez, quand quelqu'un rentre dans ce boulot, qu'un boulot où on travaille sur de l'humain, il rentre en simplement se disant « moi, je regarderai que la fiche de paye à la fin du mois », on ne peut pas dire que ça fera un bon flic ou un bon gendarme. Malheureusement, il y en a un certain nombre qui sont comme ça. Et alors, ces gens-là, on peut leur faire faire tout ce qu'ils voulaient. Et alors, j'ai connu des gens de tous les styles. Certains me disaient, pourtant, là, je me souviens quand j'étais en brigade criminelle à Marseille, pourtant qui était un service intéressant, prestigieux, et où on avait effectivement une hiérarchie qui était très pesante. Certains me disaient, moi, qu'on me fasse faire ça ou autre chose, j'en ai rien à faire. L'important, c'est que je touche ma paye à la fin du mois et j'ai une belle carte de visite, ça me satisfait. J'ai d'autres exemples. Un ami gendarme qui était dans la région il y a quelque temps, il a fait 5-6 ans de gendarmerie. Il a été écœuré de ce système. Et je sais, parce que je connais bien, j'ai discuté avec lui, qu'il est rentré avec de belles idées. Et au bout d'un moment, il a été usé par ce qu'on lui demandait de faire. Et encore, il n'a même pas fait quasiment pas de maintien de l'ordre. Il était en gendarmerie territoriale. Il a perdu ses illusions très vite et il a démissionné. Il est allé faire un autre travail. Donc, il y a un peu de tout. Et autre élément, ce qui est assez important, c'est aussi la formation des gendarmes, des policiers. Alors, sur la gendarmerie, je ne la connais pas trop, mais effectivement, la formation des policiers, je sais qu'au fil des ans, elle s'est amenuisée. Elle s'est peut-être amenuisée. Je veux dire, on a appris... déjà, c'était le cas pour les gardiens de la paix, à n'être que des exécutants. Et les officiers, ça je l'ai bien connu, vu que j'ai fait l'école d'inspecteurs dans les années 80 à Cannes-Écluse en région parisienne, cette école est devenue l'école des officiers de police en 1995, on leur a appris uniquement à commander leurs subordonnés. Voilà. Et ne plus faire d'enquête, ne plus faire tout ça, c'est passé presque au second plan. Alors, ce qui intéresse le pouvoir... Donc pour former ces policiers, c'est quoi? C'est le maintien de l'ordre, il ne faut pas rêver. C'est le maintien de l'ordre et le renseignement politique pour être à peu près sûr de se maintenir au maximum. Donc dans cette optique-là, vous n'avez pas besoin de former des policiers, vous n'avez pas besoin de les rendre intelligents. Hein. Ils doivent obéir. Et puis les décideurs, donc le corps de direction de conception, c'est le corps des commissaires, notamment, se chargera de tout driver, quoi.
Alors, le numérique a pris une place importante dans la fonction de policier ou de gendarme, au point peut-être d'avoir une idée faussée de la population. À titre d'exemple, on peut penser à ces prélèvements ou à ces analyses de propos tenus sur les sites sociaux, les réseaux sociaux, et qui peuvent prêter à l'erreur, parce que parfois ça peut être une plaisanterie qui peut être prise comme une chose sérieuse pour un enquêteur. Et ça, on peut le multiplier par des milliers de fois. Est-ce que... Comment s'opère, justement... Enfin, je ne sais pas si vous pourriez répondre. En tant que nostalgie de police à papa et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui paraît le plus proche d'une certaine réalité, je dirais?
Concernant l'importance qu'on peut attacher aux propos qu'il y a sur les réseaux sociaux, je pense que ces propos sont importants dans le cadre d'une enquête, d'une responsabilité. Quelqu'un qui va prêcher la haine, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est important qu'il puisse être sanctionné. Mais il ne faut pas que ça... Enfin, la limite est difficile à trouver. Il ne faut pas que ça amène une censure. Et c'est un peu le cas, malheureusement, dans ce qu'il y avait comme dans le projet, notamment de loi sécurité globale, avec la tentative qui était faite avec cet article 24, je crois, pour l'histoire de la diffusion des images. Alors, c'est vrai que c'était pas la diffusion des images qui était interdite, c'était la diffusion dans un but de nuire, effectivement. Mais enfin, dans la pratique, pour appliquer un texte comme ça, je peux vous dire, vous pouvez mettre beaucoup de gens en garde à vue, saisir leur matériel, et vont le mettre en prison. Le temps que ça passe devant un tribunal et puis que la personne prouve qu'elle n'avait pas intention de nuire en diffusant des images, par exemple, d'une manifestation où les forces de l'ordre se comportent comme... de façon très, très négative, et c'est le moins qu'on puisse dire.
À titre d'illustration, l'affaire Benalla.
L'affaire Benalla, ou même toutes dans les manifestations des Gilets jaunes, on voit très bien des policiers qui sont au-delà de ce qu'ils devraient faire. Donc ça, c'est inacceptable, et c'est très bien que ça soit diffusé sur les réseaux sociaux. Ça devrait permettre de limiter ce type d'exaction. Enfin, donc, le gouvernement a voulu, à la demande notamment des syndicats de police, bannir ce type de reportage. C'est de la censure. Alors, il est vrai que parfois, de mettre la photo d'un policier en disant voir où il habite et dire ce qu'il a fait, ça peut inciter les gens à aller se venger sur lui. On a vu des exemples très tragiques, notamment en région parisienne, lorsque un couple de collègues a été assassiné chez lui par un islamiste. C'est certain qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser la haine se propager, mais il ne faut pas non plus bloquer toute la parole sur Internet. Alors c'est très difficile. La limite est très, très ténue entre ce qu'on peut accepter au titre de la liberté de la presse, la liberté de parole, et ce qui est la censure. On pourrait même élargir ce débat aux publications de Charlie Hebdo, jusqu'à quel point ça doit être permis. À mon sens, c'est bien que ça soit permis. Je suis pour la liberté de parole. Après, que certaines personnes en profitent de cette liberté pour dire tout et n'importe quoi, faut-il encore prouver qu'ils disent tout et n'importe quoi et qu'ils en profitent pour appeler au meurtre? Là, effectivement, ça c'est pas acceptable. Alors, c'est très complexe à gérer comme problème. Je prétends pas avoir la solution, mais le fait de censurer tous les propos qui ne plaisent pas au gouvernement, pour moi, n'est pas une solution. Et c'est surtout pas aux sociétés elles-mêmes, genre Facebook et autres, de s'auto-censurer, parce que là, je veux dire, on atteint tout et n'importe quoi. Je veux dire, ils font leur ménage eux-mêmes et là, véritablement, ces sociétés, dont la plupart appartiennent à des amis de nos gouvernants, pour leur faire plaisir, vont auto-censurer. C'est déjà le cas dans certains médias, que ce soit nationaux, télévisuels ou autres, ou des émissions, par exemple, l'émission des Guignols de l'Info n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'elle a été auto-censurée petit à petit par une chaîne dont le patron était un ami de Sarkozy. Donc il ne faut pas rêver. Si on applique ça à toute la presse, il n'y a plus de liberté de la presse. Voilà.
Le livre se situe, commence en été 2022, et à ce moment-là, le confinement est toujours de rigueur.
J'espère que je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais ce type de crise sanitaire qu'on vit depuis un an est un moyen tout à fait rêvé pour des pouvoirs autoritaires. Je considère qu'on a un pouvoir autoritaire en France actuellement. Ce n'est pas une dictature, mais sur certains points, on pourrait s'en approcher. C'est l'occasion rêvée pour mettre la main sur tout ce qui est effectivement liberté d'expression, toute opposition qui sort des rails, on va dire. Ça ne me surprendrait pas qu'on fasse perdurer un peu la pression sur la population de gouverner par la peur, tout simplement. Ça ne me surprendrait pas, parce que c'est ce qu'on fait depuis un an et ça marche très bien sur une bonne partie de la population.
Il y a quelques mois, il y avait cette tension au sein de la police avec l'extrême droite qui a une implantation de plus en plus conséquente, semble-t-il. Est-ce qu'il existe une certaine cécité du ministère de l'Intérieur sur ce potentiel d'extrême droite au sein de la police ?
Je ne pense pas. Je pense que ça a toujours existé. De tout temps, il y a des flics de gauche, des flics de droite, des flics d'extrême droite, d'extrême gauche peut-être moins, effectivement. Mais ça a toujours existé. Après, le pouvoir, je pense pas que le pouvoir ferme les yeux là-dessus, sauf peut-être à une époque où effectivement il y avait c'est vraiment très ancien, l'époque du SAC, donc c'est avant 1980, 81. où là, le sac, pour le rappel, c'était une officine gaulliste, pas une police parallèle quand même pas, ni une milice, mais enfin une officine affiliée au parti présidentiel à l'époque, dont il y avait l'UDR, avant je ne sais plus ce que c'était, mais enfin bon, et qui a fait effectivement quelques exactions. Cette officine datait de la guerre d'Algérie. Hein. Donc effectivement, à l'époque, et dans cette officine, il y avait beaucoup de policiers, en fait, effectivement. Donc à cette époque, effectivement, le pouvoir a protégé. C'est certain. D'ailleurs, un des principaux patrons était Charles Pasqua, qui est devenu ministre de l'Intérieur. C'est pas un hasard. Depuis, à ma connaissance, alors peut-être que je suis un peu aveugle ou mal renseigné, bon, à ma connaissance, l'existence ou la présence de policiers d'extrême droite, ça a toujours été le cas. Je pense pas qu'il y en ait plus maintenant qu'auparavant. Peut-être qu'ils se cachent moins ou... C'est possible, mais je pense pas que le pouvoir actuel ou récent ferme les yeux là-dessus ou les ait protégés. À mon sens, non.
La loi sécurité globale, tant décriée, est toujours à l'état de projet, hein, en discussion en tout cas. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente ? Un bienfait pour la société ou alors un bienfait plutôt pour une certaine technologie et voire une marchandisation de la sécurité ?
Non, pour moi, elle présente une menace sur la liberté d'expression et la liberté donc de diffusion, je veux dire, à l'époque où je travaillais, effectivement, commençaient à fleurir les téléphones portables où on peut filmer. Donc, je savais très bien qu'étant dans la rue, lorsqu'on interpellait quelqu'un, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Donc, des fois, on utilise la force. Si la force est utilisée à bon escient, et la force strictement nécessaire, il n'y a pas de peur à être filmé. Bien que, et ça c'est vrai qu'il y a des dérives là-dessus, c'est qu'une personne peut très bien filmer un événement, une interpellation de la police dans la rue, musclée, trop musclée peut-être, et alors la police peut-être intervient parce que auparavant il y a eu un fait très grave, il y a eu la personne qui est interpellée a tenté de s'échapper ou elle-même s'est rebellée. Et effectivement, si on ne diffuse qu'une partie de l'interpellation, c'est-à-dire la fin au moment où la personne interpellée se fait menotter très violemment ou autre, si on ne diffuse que ça, si on fait une diffusion partielle, effectivement, ça peut porter à confusion et tout de suite on va accuser la police de violence gratuite. Alors effectivement, dans ce cas-là, il faut que tout simplement que l'administration défende les collègues et explique exactement les circonstances. Après, donc il faut que l'administration soit très réactive et très vigilante là-dessus. Après, le fait de diffuser ces images-là, écoutez, c'est malheureux, mais si on diffuse des images d'une réalité, que dans des manifestations, vous avez des papis, des mamies qui se font gazer alors qu'ils ne faisaient rien sur les Champs-Élysées, parce que ça, c'est vu, c'est lamentable, et bien ça doit être diffusé. Si la police fait des erreurs, elle doit le reconnaître et les fautifs doivent être sanctionnés. Voilà.
Voilà, même a dit, hein, ça peut se produire, hein, comme ça s'est produit en 2014, où des personnes âgées, juste passantes, ont été gazées sans qu'elles le veuillent.
Vous ne connaissez pas ce fait divers.
Bon, c'était fait divers il y a 7 ans d'ici. Et puis, je voulais savoir, un lecteur qui va lire Poulet rôti, que va-t-il découvrir ? De quoi va-t-il être enrichi de cette lecture ?
Alors, un tout petit peu, il va découvrir la région du Haut-Bouëche, qui est très jolie, où j'habite. Il va surtout découvrir l'évolution d'une police au cours des 20-30 dernières années, qui, pour moi... alors, je ne veux pas dire qu'elle est plus au service du pouvoir qu'avant. Elle a toujours été, hein, partie au service du pouvoir. Mais enfin, actuellement, je trouve... Enfin, ces dernières années, depuis une dizaine d'années à peu près, je trouve que c'est de plus en plus criant. Et une police qui parfois, avec les objectifs qu'on lui impose, Donc les objectifs que lui impose le pouvoir politique ne devient plus au service des citoyens, mais devient au service du pouvoir et de l'État. La police, elle doit rapporter à l'État, quitte à restreindre au maximum les libertés. Et puis une police qui, parfois, a oublié son rôle aussi préventif. Auparavant, beaucoup de policiers que ce soit dans par rapport aux infractions routières ou autres, se contentaient de montrer le doigt ou de rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors que maintenant, quasiment, il n'y a plus à discuter. C'est l'amende tout de suite et puis terminé, parce que le policier, lui, va être noté là-dessus, il va être récompensé là-dessus. Donc on l'incite à ne plus être coulant. Et donc, il ne faut pas s'étonner après que la majorité de la population qui a affaire à ces policiers qui vous verbalisent sur la route ou dans une manifestation, qui vont vous gazer gratuitement ou autre, ou qui vont vous mettre une amende parce que vous n'avez pas votre masque comme il faut dans un supermarché, il ne faut pas s'étonner que la police, après, la population voit la police sous un mauvais œil. Il ne faut pas s'étonner. Quand on parle aujourd'hui, et c'est un des sujets du Beauvau de la sécurité, comment faire pour que la police soit de nouveau aimée pour la population? Il faut peut-être qu'elle change de méthode et que surtout que les instructions du gouvernement évoluent un peu. Alors, sur ce Beauvau de la sécurité, il faut voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas de gros espoirs là-dessus. J'ai l'impression que ça va être encore une coquille vide.
Le Beauvau de la sécurité, c'est aussi de ramener un peu de confiance entre la population et les forces de l'ordre. Oui. Mais à l'heure actuelle, ça peut évoluer dans les semaines à venir, mais à l'heure actuelle, le public ne prend pas vraiment part à ces concertations actuellement.
Semble-t-il, oui. Je sais qu'il devait y avoir un certain nombre d'associations qui étaient invitées à ces discussions entre le gouvernement, les syndicats de police et autres. Là, je ne sais pas où ça en est, parce que ça débute. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e semaine. Ça doit durer quelques mois. J'ai peur que ça accouche d'une souris, encore ça. Ou alors on va saupoudrer un peu d'argent chez les policiers pour les remotiver. Mais pour la population, si on ne change pas les instructions dans un certain nombre de domaines, je ne veux pas dire qu'il faut ramener, par exemple, la police de proximité, qui serait peut-être une bonne idée, mais encore, pas lui faire l'armée, mais d'une autre façon peut-être que ce qu'elle faisait à l'époque où elle avait été créée il y a une vingtaine d'années. Peut-être que ça peut être un axe de travail, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas. Attendons de voir, mais je suis un petit peu pessimiste, même si dans les hautes sphères, j'ai eu la chance de connaître l'actuel directeur général de la police, Frédéric Vaux, qui a été un de mes commissaires lorsque j'étais à Marseille. Je pense que c'est quelqu'un de sensé. Mais il n'est pas tout seul à prendre des décisions. Il est sous l'autorité du ministre et autres. Et bon, ça reste le politique qui prend les décisions. Alors lui, peut-être qu'il aura l'intelligence de suggérer certaines choses. Je ne sais pas. Attendre de voir.
Poulet Rôti est édité au nombre 7 éditions. Un livre qui est accessible par librairie, Internet.
Plus difficilement par librairie. Le mieux est d'aller sur le site de nombre 7 éditions. Que le site est sur Internet. On peut le commander. Il y a une version e-book qui existe. Et quelqu'un de la région, s'il veut faire le déplacement, il peut me contacter, venir chez moi et je pourrai le dédicacer.
Un autre ouvrage en préparation déjà ?
Pour l'instant, non. Je pense que j'écrirai un quatrième ouvrage. Je ne sais pas sous quelle forme, un roman ou pas. Parce que j'ai pris goût à écrire ces dernières années. Ça occupe une partie de ma retraite. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le sujet exact. Ça viendra.
Jean-François Barbieri, je vous remercie d'être venu nous parler de Poulet Rôti. Un peu, parce qu'on allait border sur bien d'autres sujets. Et un roman à découvrir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir et merci.